Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir pour ouvrir ensemble la Bible. Et nous allons tout de suite reprendre la lecture du début du chapitre 19 dans le premier livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 19, nous relisons quelques versets pour bien nous replacer dans le cadre de cet extrait de l'histoire du prophète Élie. Je lis à partir du verset premier. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et l'y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Nous y ajouterons une seconde lecture, également dans l'Ancien Testament, et dans le livre des Psaumes. Psaume 107. Nous lirons les 9 premiers versets, psaume 107, versets 1 à 9. Une galerie de portraits. Et nous avons un premier portrait qui va dans le sens de notre réflexion. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Nous entrons dans la 6e étape de notre réflexion sur le découragement. Et hier soir, nous avons commencé à examiner la 4e des causes que l'on peut discerner dans ce chapitre 19 du premier livre des rois. 4e des causes du découragement, de la dépression, de ces moments difficiles dans la vie du prophète Élie. J'ai relu Hier après-midi, quelques extraits d'un livre qui n'est plus publié, je crois d'ailleurs actuellement, sur le prophète Élie, dans lequel l'auteur voyait dans le prophète Élie un géant, comparant ceux qui étaient fidèles, nous en parlerons autour de lui, les comparant à des pygmées. Géant à côté de pygmées. Mais ce qui m'a surpris dans ce livre, c'est que le chapitre 19 ait été escamoté. Il n'en est pas question. Et c'est vrai que le chapitre 19 du premier livre des rois remet cet homme à sa juste place parce qu'il n'y a pas de géant dans les Écritures. Il y a des petits hommes qui ont su s'appuyer sur un grand Dieu. Et Élie était un homme de la même nature que nous, soumis aux mêmes passions que nous. Nous dirions en langage moderne, avec tout le respect que nous lui devons, à certains moments de sa vie, c'était un pauvre type comme nous. Mais Dieu se plaît à se glorifier au travers de nos faiblesses. Nous avons évoqué le sentiment de solitude hier soir. Et nous y revenons ce soir. Un roi 18-22, c'est déjà dans le langage d'Élie, alors qu'il est au cœur de ce moment de confrontation entre la gloire de l'Éternel et le néant des idoles. Un roi 18-22, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et puis nous l'avons relu, verset 10 du chapitre 19, « Je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Et ceci est répété une troisième fois au verset 14, à la fin du verset 14, « Je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Et nous avons donc évoqué hier soir ce cercle vicieux du découragement. Le découragé qui est écartelé entre sa recherche de solitude, qui veut à tout prix fuir son entourage, qui va dans les fourrés comme l'animal blessé, et qui en même temps souffre de sa solitude. Et nous avons déjà dit hier que l'évaluation d'Élie était fausse. Il se croyait, se sentait seul, mais il ne l'était pas. Et surtout pas seul dans sa fidélité. Et puis nous avons hier soir abordé le drame des vraies solitudes. Celle que confrontent tant de nos contemporains. Celle qui est peut-être encore même ce soir, la vôtre, la tienne. Parce que le Christ a voulu jusqu'ici croiser votre route et que vous l'avez évité. Et c'est ainsi que nous avons abordé toutes les questions de solitude aujourd'hui, ce monde de solitude. Solitude au plan familial, solitude par l'intrusion de la télévision, solitude par l'invasion de l'électronique chez soi, solitude dans la ville moderne, solitude dans la grande surface, et la haine qu'a l'homme de la solitude, quelle qu'elle soit. Parce que qui dit solitude dit silence, et que le silence est insupportable au cœur de l'homme. Le silence n'existe pas dans le cœur de l'homme. Dès que s'installe la solitude, s'installe le bruit qui monte du fond du cœur. et ce bruit est insupportable. Et nous en sommes venus à souligner que la solitude était un mal interne, que le drame était au-dedans de nous. Nous avons évoqué le lépreux au sein du peuple juif, qui était mis à l'écart, en dehors de la cité, qui se voyait subitement complètement coupé de ses bien-aimés, de sa famille, de l'assemblée d'Israël. Il devait se tenir solitaire parce qu'il était lépreux. Et nous avons vu hier soir comment cette lèpre en annonçait une autre, profonde, morale, causant ô combien plus de dégâts à ce visage de l'âme, à ce quartier général de l'individu qui s'appelle le cœur dans les Écritures. Oui, solitude, mal de l'âme. Et puis nous avons fait tourner nos regards vers celui qui est venu pour rompre notre solitude, Jésus-Christ. Lui qui n'était jamais seul, avons-nous dit hier soir. Parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable au Père. Lui qui avait connu une unité de relation, une intimité de relation dans cette sainte équipe parfaite. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et qui allait tout d'abord goûter sur la terre à la solitude au milieu des hommes, de la part des hommes, peu à peu lâché des uns et des autres, pour être dans la nuit noire du jardin de Gethsémané, lâché de ses plus proches. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, avant d'être lâché finalement sur la croix, à cause de cette lèpre de l'humanité tout entière, ma lèpre, la vôtre, lâchée du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris sur lui notre lèpre et nos solitudes, afin que nous ne soyons plus seuls. Et alors, s'est élevé de nos cœurs hier soir, comme un chant de louange, parce que nous avons commencé à parcourir tous les signes de cette rupture d'avec la solitude dans la vie de celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Jean 14. Le don du Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Je vous donnerai un autre consolateur de la même nature, de la même essence que moi, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. Plus jamais seul. Et nous avons accumulé tous ces textes de la Bible qui parlent d'eux-mêmes. Cet esprit d'adoption qui crie au fond de nos cœurs, Abba, c'est-à-dire Papa. Je ne suis plus orphelin. Ma solitude est rompue. Et maintenant, curieusement, j'y repensais cet après-midi, je peux aimer la solitude. Pourquoi est-ce que le disciple de Christ peut aimer la solitude? Tout simplement parce que la solitude n'existe pas. Quand il est seul, le disciple de Christ, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Le Saint-Esprit est toujours là. Dieu a dit, nous ferons notre demeure chez vous. Nous viendrons habiter chez vous. Jamais seul. Et puis, nous avons abordé Jean chapitre 10. La différence entre le mercenaire qui abandonne les brebis à leur solitude parce que lui vit pour sa croûte. Là où le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nul ne les ravira de ma main. et nul ne les ravira de la main de mon Père, parce que le Père et moi, nous sommes un. Sécurité éternelle du croyant. Et enfin, nous en sommes arrivés, c'était là notre conclusion, et c'est un court résumé du partage d'hier soir, à cette symphonie extraordinaire de la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il vaut la peine que nous relisions ces versets qui nous permettront de jeter un pont avec la suite de notre réflexion ce soir. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et nous avons vu comment il n'y a pas de fluctuation dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime autant aujourd'hui qu'hier et que demain. Et nous l'avons dit, parfois le problème du croyant découragé est là. Il pense que parce qu'il a glissé, qu'il est tombé, Dieu ne l'aime plus. L'amour de Dieu est un amour éternel. Cet amour sévère, amour doué de colonnes vertébrales, amour qui sait dire non, amour qui sait corriger, qui sait donner des fessées, mais c'est un amour éternel. Quelqu'un dit que l'amour de Dieu était comme un cours d'eau qui ne gelait jamais. L'exemple est de mise ce soir. Hein? L'amour de Dieu est une fontaine qui ne tarit jamais, un soleil qui ne se couche jamais. Et voyez-vous, c'était la force de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a connu des moments difficiles. Et lorsqu'on sait un peu lire entre les lignes, on se rend compte qu'à certains termes qu'il utilise dans certaines de ses épîtres, il a connu des moments de découragement. Et il le dit d'ailleurs. De Corinthiens 4, verset 9, il confesse: avec joie, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Persécutés, connaissant des moments d'opposition, d'incompréhension, mais nous ne sommes pas abandonnés. 2 Corinthiens 4, 9. Et puis je pense à cet épître très personnel, qui est en quelque sorte le testament spirituel de l'apôtre Paul à Timothée. La deuxième épître, rédigée sans doute peu de temps avant qu'il soit rappelé auprès de son Seigneur. Et c'est l'épître qui crie l'abandon de la part des hommes et même des croyants dans l'expérience de l'apôtre Paul. De Timothée 1,15, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. De Timothée 4,10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Vous savez, l'abandon est douloureux, mais il y a une gradation dans les souffrances de l'abandon. Quand ce sont ceux qui partagent la même foi que vous, qui font partie de la même famille spirituelle, avec lesquels vous avez vécu des moments parfois extraordinaires dans la présence de Dieu, dans la conquête spirituelle, et qu'un jour vous devez dire qu'ils ont abandonné, qu'ils vous ont abandonné. par amour pour le siècle présent, combien c'est difficile. Et puis de Timothée 4, versets 16 à 18, un peu plus loin. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Pensez à ces quelques 25 à 30 années de ministère de l'apôtre Paul. À cette poussière d'église fondée dans toute la Turquie actuelle. Et à tout ce qui s'était fait à partir de ce témoignage de cet homme de Dieu, même là où il n'était pas passé. Et puis le voir arriver à l'époque où il s'appelait lui-même dans l'épître à Philémon un vieillard, de plus en plus seul. Nous avons parlé dans cette série au mois de juin de la manière dont nous concevons l'échec et le succès, la manière dont Dieu conçoit l'échec et le succès. Que pensez-vous ici du succès de l'apôtre Paul? Mais il ajoute quelque chose. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Dans sa vieillesse, à l'heure où il était de plus en plus incompris, de plus en plus seul, et pourtant il ne la recherchait pas cette solitude, mais il se voulait fidèle, simplement. Il savait qu'il y avait quelqu'un qu'il n'avait pas abandonné. Son Seigneur. Et puis vous avez ce texte qui se situe dans le prolongement de cette pensée, et qui est dans l'Ancien Testament, le psaume 23 et le verset 4. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est une vallée qu'il nous faut tous traverser. Et c'est vrai qu'il y a l'angoisse, il y a le découragement, même, oui, disons-le, pour celui qui commence à sentir les ombres. Et puis il y a aussi l'angoisse et le découragement pour celui qui a vu l'un ou l'autre des siens passer par cette vallée et ne pas en revenir. J'ai vécu l'an dernier un deuil très proche qui m'a fait réaliser combien il fallait que je m'attache plus fortement encore à mon Seigneur. Mais j'aime ce verset qui nous dit que dans ces moments-là, nous ne sommes pas abandonnés. C'est un homme de Dieu que Dieu a abondamment utilisé aux États-Unis qui a perdu sa femme. Il est décédé lui-même depuis quelques années. Et sa femme était décédée d'un cancer à moins de 40 ans, laissant 3 enfants de moins de 12 ans. Et parce qu'il était certain de la victoire sur la mort, il décida de donner le message lors de l'ensevelissement de son épouse. Et en route pour l'enterrement, ses enfants et lui furent doublés par un grand camion qui, en passant, jeta son ombre sur la voiture. Et il demanda alors à l'un de ses enfants, « Est-ce que tu préférerais être écrasé par ce camion ou par son ombre ?» Et l'enfant de répondre, « Mais par l'ombre, bien sûr. » Une ombre ne peut pas te faire de mal. Et c'est cette réponse qui servit de base au message que délivra cet homme de Dieu, qui répondit à ses trois enfants sans maman, maman a été écrasée non par la mort, mais par l'ombre de la mort. Ce qui a fait dire d'ailleurs à un homme de Dieu, dans un de ses livres, à un autre homme de Dieu, l'ombre n'est possible que s'il y a quelque part une lumière qui brille. C'est la lumière du monde lui-même qui attend de souhaiter la bienvenue à son enfant et qui produit l'ombre de la mort mentionnée au psaume 23. Ainsi, au moment même où s'éteint l'ombre, nous avons la certitude d'avoir la lumière. Nous l'avons dit hier soir, nous le redirons ce soir. Non, jamais tout seul, nous dit un cantique. Mais c'est là le message de Dieu lui-même. Et puis il y a le veuf ou la veuve qui reste seul, séparé d'un être cher. Et c'est vrai qu'il y a des moments de douloureuse solitude. Surtout une fois que le temps où l'on a été bien entouré par la sollicitude de ses proches est passé, chacun est retourné à ses occupations. Et il y a ce verset dans les Écritures que j'aime, dans la première épître à Timothée au chapitre 5 et au verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui demeure toute seule, oui, toute seule, elle n'est pas seule. Elle met son espérance en Dieu et elle persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Quel remède au découragement si douloureux dans ces moments-là. Et c'est vrai que notre tristesse, tout comme notre incrédulité, peuvent nous aveugler et nous laisser croire que nous sommes abandonnés. Vous la connaissez, l'histoire des disciples d'Emmaüs? Ces hommes qui, sans retourner vers leur village, oh, qu'ils se sentaient seuls! Quelle solitude! Ils avaient espéré! Et nous avons parlé hier soir de leurs espérances, semblables à celles du cercle plus intime des 12. Et puis Jésus est venu à leur côté, et la Bible nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et c'est vrai qu'il est des apparentes solitudes liés à notre tristesse, à notre incrédulité, au fait que, comme ces deux hommes de Luc 24, nous sommes peut-être trop des disciples du tombeau, du Vendredi Saint. Ils s'étaient arrêtés au tombeau, à un Jésus mort, alors qu'il était vivant et à côté d'eux, et qu'ils sentaient leur cœur se réchauffer, brûler littéralement au-dedans d'eux, alors qu'il leur expliquait les Écritures. Et c'est vrai que notre climat intérieur est lié à la conception que nous avons de Dieu, de Jésus-Christ, nous l'avons dit, notre vision de la personne de Christ. Et si vous vous êtes arrêté au tombeau, au Vendredi Saint, il est évident que Jésus le ressuscité peut marcher à vos côtés. Et vous ne le voyez pas. Et vous avez besoin d'une étude biblique avec lui, de prendre contact avec sa parole, de vous laisser enseigner par lui, de manière d'ailleurs à ce qu'il ne soit plus à côté de vous, mais à ce qu'il soit en vous, par son esprit. Et puis, disons-le aussi, il y a le péché non confessé qui peut créer un sentiment de solitude dans la vie du croyant. Solitude et sécheresse se confondent. Le terme désert, nous allons le redire dans un instant, et le terme solitude sont synonymes dans les Écritures. Et il est des déserts qui sont dus à nos désobéissances. Pas tous. Il est des déserts nécessaires pour que nous apprenions à marcher par la foi et non par la vue. Mais il est des déserts qui sont les déserts de nos désobéissances, dans lesquels nous nous sentons seuls. Et c'est là précisément, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons l'impression que Dieu ne nous aime plus. Alors que une action fantastique est en œuvre, à la fois dans le ciel et dans notre cœur, pour que nous quittions ce désert de nos désobéissances. Le Saint-Esprit qui plaide dans notre cœur pour notre retour vers la croix. Le Fils qui plaide en avocat dans le ciel en notre faveur, pendant que la puissance des ténèbres se dresse en procureur général réclamant notre tête, nous accusant, noircissant le tableau à volonté, n'est-ce pas? Alors bien sûr, il est peut-être dans nos vies ce soir des découragements qui pourraient être liés à ce type de désert. Dieu nous invitant ce soir à revenir, à ne plus attendre, à dire « Seigneur, j'ai tort, je veux maintenant céder, ça suffit. Je veux retrouver aussi ce sentiment intérieur, pouvoir crier cet Abba Père. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Voilà un certain nombre de raisons, de sentiments de solitude. Et c'est ainsi que la première remarque de Dieu à Élie dans 1 Roi 19 est celle-ci, bien, coucou, me voilà. Il se croyait seul dans son désert, le prophète Élie. Et puis subitement, on lui tape sur l'épaule. On le réveille. Et il a sous ses yeux un repas, mise à sa disposition par le Seigneur, et puis Dieu lui parle. Même au fin fond de ton désert, même au fin fond de ta solitude, dans ta déprime, je suis là. Tu n'es pas seul, Élie. Je prends soin de toi. Et alors que je réfléchissais devant Dieu à ce texte, Dieu me faisait repenser à tous ces textes de l'Ancien Testament, textes prophétiques, qui sont en cours de réalisation, mais nous sommes loin d'avoir tout vu en terre d'Israël, mais qui ont aussi un sens pour nous, qui auront accomplissement littéral déjà en cours de réalisation. C'est vrai que la solitude d'Israël a reverdi, c'est en cours. Et puis accomplissement aussi spirituel, dans la vie de celui dont le cœur était un désert, c'est vrai. Mais Dieu change nos déserts intérieurs, comme il a changé le désert d'Élie, cette solitude d'Élie. En contrée verdoyante, Ésaïe 35, verset 1, le désert et le pays aride se réjouiront. Chapitre 43, verset 19. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. Et puis nous l'avons lu tout à l'heure. Psaume 107, dans ses 7 premiers versets. Ces hommes, ces femmes, qui erraient dans la solitude, affamés, qui ne savaient où aller, qui cherchaient une ville habitable. Nous avons vu hier soir que Dieu donne une famille aux solitaires. Dieu donne une ville habitable aux solitaires. Et nous les avons vus, ces angoissés, ces dépressifs, qui ont crié vers l'Éternel, qui les a délivrés de leurs angoisses et qui les a conduits jusqu'au port désiré. Je pense à Genèse 21, verset 19, Agar, cette servante de Sarah, et Ismaël, ancêtre des Arabes, et qui sont renvoyés au désert pour laisser la place au fils de la grâce de la promesse. Et là, Agar voit son fils qui peu à peu, oui, se dessèche, va vers la mort. Elle est désespérée, abandonnée dans une solitude mortelle. Et il nous est dit dans ce texte de Genèse 21-19 que là, dans sa solitude, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle vit un puits d'eau. C'est Saint-Exupéry qui a dit ceci, et c'est riche. Le désert cache toujours un puits quelque part. La Bible le dit aussi. Le désert cache toujours un puits quelque part. Encore, faut-il le trouver, ce puits. Et c'est là que nos disciples de Christ, nous avons une vocation fantastique. Aider les hommes autour de nous qui souffrent dans leur solitude désertique à aller vers le puits. Puis d'eau vive, non pas étant stagnant. Souvenez-vous de l'histoire de la femme samaritaine. Et peut-être y a-t-il des désespoirs. Peut-être y a-t-il aussi de ces découragements qui sont liés au fait que nous ne remplissons pas notre vocation d'être de ceux qui montrent les puits. Peut-être que quelqu'un voudrait dire ce soir à l'un, Dieu voudrait dire à l'un d'entre nous, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas un indicateur de puits? Tu quitterais ton découragement aussitôt, ton regard tourné vers les besoins des autres. Au lieu de te lamenter de tes apparentes solitudes, considère les vraies solitudes, celles de ceux qui t'entourent, et va vers eux pour leur dire aux autres que leur désert cache un puits. Et va leur montrer quel est ce puits. D'où jaillit une eau qui ne tarira jamais. Et qui deviendra un fleuve débordant dans les cœurs. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu a dit à Élie, « Coucou, me voilà !» Et il s'est servi d'un ange. Vous croyez au ministère des anges? Moi, j'y crois. Oh, n'essayez pas de m'entraîner sur certaines peaux de banane. Je ne voudrais pas dire ce que la Bible ne dit pas au sujet des anges. Vous savez que on a beaucoup ajouté à la Bible. Le judaïsme lui-même a créé tout un système de réflexion qui a parfois même influencé des faux docteurs qui ont essayé de créer le trouble dans l'Église primitive et qui se servaient justement de pensées sur les anges qui n'étaient pas dans la Bible. Ils partaient de certains textes bibliques qui parlent des anges, mais ils extrapolaient, ils brodaient. Et à partir de ces textes, ils faisaient dire et faire aux anges des choses et des paroles qui n'ont pas lieu d'être. Mais je crois au ministère des anges.
Et je suis absolument convaincu,
même si je ne m'en suis jamais rendu compte de manière absolument certaine, que les anges sont intervenus certainement beaucoup plus d'une fois dans ma vie. Si j'en crois les affirmations des Écritures. Prenons tout d'abord ce beau texte de l'Ancien Testament dans 2 Rois 6, 8 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Mes amis, méfions-nous des paroles que nous prononçons dans nos chambres à coucher. Il est dit que ce que nous disons dans les chambres sera redit sur les toits. Moi, j'y crois. Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est. » Et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, mais comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et vous savez que cette histoire s'est répétée. Non seulement dans les Écritures, mais nous avons les récits dans l'histoire de l'Église, lointaine, proche, même actuelle, de phénomènes de ce genre, auxquels je crois. Oh, bien sûr, je ne veux pas accepter le premier récit venu n'importe comment, mais des hommes dignes de confiance ont rapporté de manière très claire qu'ils avaient vécu tout à fait ce type de situation. Et puis, de toute manière, l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 et au verset 14 dit que les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et ceux qui doivent hériter du salut, là, ce sont ceux qui sont déjà en Jésus-Christ. Ce qui a fait écrire un magnifique poème à cet homme de Dieu, Charles Wesley, dont la traduction donne à peu près ceci, « Les anges sont partout nos compagnons de route, et quoi qu'il arrive, surveillent nos pas. Ils remplissent leur mission avec un soin extrême et nous préservent de tout mal. » Et je crois que de la même manière que Dieu s'est servi d'un ange pour préparer Élie à le rencontrer, pour qu'il soit relevé, fortifié, encouragé, qu'il reprenne sa tâche. Dieu s'est certainement servi d'ange pour agir en notre faveur. Ils sont présents tout au long de la Bible. Et nous aurions pu passer notre soirée à énumérer les hommes de Dieu dans la vie desquels ils sont intervenus. Et puis il y a de toute manière celui qui est appelé l'ange de l'Éternel, présent tout au long de l'Ancien Testament, et qui, je le crois, et le Christ lui-même. Présent, agissant dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Alors nous ne sommes pas seuls, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que Dieu est notre Père en Jésus-Christ. Parce que les anges interviennent eux aussi. Nous l'ignorons et c'est mieux ainsi. Nous en ferions tant de publicité qu'ils n'oseraient plus intervenir. Et puis, nous l'avons dit hier soir, nous l'avons dit ce soir. Dieu donne aux solitaires une maison. Et le texte hébreu permet de traduire une famille. Et je veux ici parler ce soir de cette grande famille que Dieu donne à celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Et quand quelqu'un se tourne vers le Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'il commence à découvrir cette famille. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Dès ma conversion en Jésus-Christ, dès l'instant même où le Saint-Esprit prend possession de ma vie, la régénère, et établit sa demeure éternelle en moi, dès cet instant, je suis intégré à une grande famille. C'est intéressant d'ailleurs de voir dans Actes au chapitre 9, le témoignage, ou l'événement lui-même d'ailleurs, de la conversion de Saul de Tarse. Immédiatement, dans le langage, dans le vocabulaire de ce chapitre 9, apparaît un mot nouveau, c'est le mot « frère ». Immédiatement, Saul de Tarse sait qu'il entre dans une famille et il part à la recherche de frères. Ce terme qui revient quelque 200 fois dans le Nouveau Testament. 200 fois. Et puis il en est un autre qui est intéressant, c'est le terme saint. Qui, lorsqu'il est utilisé comme nom et non pas comme adjectif, est toujours au pluriel. Toujours au pluriel dans le Nouveau Testament. 61 fois, il est clairement au pluriel dans sa forme, et la 62e fois, c'est chaque saint. Mais cela signifie en réalité qu'ils sont nombreux, chacun des saint, sous-entendu. Cela veut dire que le saint n'existe pas. Un saint, ça n'existe pas. John Wesley, cet homme de Dieu, a dit aussi que le christianisme, la Bible ne sait rien d'une religion solitaire. L'idée d'un saint qui vivrait dans la solitude est inconnue du Nouveau Testament. Les chrétiens Robinson Crusoe, ça n'existe pas. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est de constater que, sauf dans les épîtres tout à fait personnelles, l'apôtre Paul parle toujours à la première personne du pluriel. Vous l'avez remarqué ? L'apôtre Paul parle toujours à la première personne du pluriel. Faites ceci, faites cela. Et ce n'est pas le vous de la politesse. Même lorsque l'apôtre Paul évoque le croyant dans son armure de soldat, exhorté à tenir ferme face aux assauts de la puissance des ténèbres, vous avez remarqué qu'il en parle au pluriel ? Nous, nous voyons le soldat. L'apôtre Paul, lui, vivait avec les soldats. Parce qu'un soldat romain qui aurait été seul sur un champ de bataille, eh bien, il était comme tous les soldats, il ne tenait pas le coup longtemps. Ce qui faisait la force de l'armée romaine, c'était précisément sa discipline collective. Ses manœuvres en équipe. C'était quelque chose de fantastique, n'est-ce pas? Et en réalité, chaque fois que nous lisons ces textes d'Éphésiens 6, nous ne devrions pas voir un soldat, mais une église composée de soldats qui font la tortue. Vous savez ce que c'était la tortue romaine? Quand on mettait les boucliers d'une certaine manière, qui carapassonnait littéralement, qui protégeait, n'est-ce pas? Et c'est vrai que l'église, nous allons le redire, est un bouclier pour le disciple de Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux chapitre 10, verset 25. Un jour, un croyant demandait à son pasteur, « Peut-on être chrétien sans pour cela appartenir à une assemblée ?»« Bien sûr. » Mais vous ressemblez à un soldat qui refuse de suivre son régiment, un écolier qui ne veut pas aller en classe, une abeille sans ruche, un rugbyman sans équipe, ou encore un ambassadeur sur une île déserte. Et j'ai lu cette remarque intéressante qui n'a pas du tout trait à l'Église. Il y a dans tout bateau des éléments qui, pris séparément, coulent à pic. La machine, par exemple, ou l'hélice, mais qui, rassemblés, flottent. Ainsi en est-il des événements de ma vie. Certains furent heureux, d'autres tragiques, mais l'ensemble forme un petit navire qui va quelque part et cela me donne courage. C'est pas très tonifiant. Mais je préfère remplacer la deuxième partie par la notion de l'Église. Il y a dans tout bateau, qui est l'Église ? Des éléments qui, pris séparément, coulent à pic. C'est vrai que les croyants, individuellement, qui seraient comme un bateau décomposé, n'est-ce pas? Imaginez un bateau en pleine réparation, vous avez l'hélice d'un côté, toutes les pièces un petit peu partout. Imaginez que l'Église soit comme ça. Et là, elle l'est parfois. Mais quand vous mettez tous ces éléments ensemble, eh bien, le bateau va quelque part. Pas n'importe où, dans une direction, il vise un cap qui lui est fixé par le Seigneur, il va vers un port, il est en marche, et c'est vrai qu'il est des découragements qui sont liés au fait que nous négligeons l'Église locale. Et sans doute, Dieu voudrait dire ce soir à tel ou tel d'entre nous, tu sais pourquoi tu te sens mal dans ta peau? Ne va pas chercher plus loin. Tu essayes de vivre ta vie de disciple de Christ en Robinson Crusoe. Tu préfères un toutou qui s'appelle vendredi au culte du dimanche et à la réunion de prière du mardi. Est-ce que Dieu ne pourrait pas nous dire ceci ce soir? Il est important de ne pas négliger notre famille locale. Quand l'apôtre Paul disait que telle personne, à cause de son inconduite notoire et de son refus d'accepter la discipline de Jésus-Christ et de l'Église, était livrée à Satan, qu'est-ce qu'il sous-entendait dans 1 Corinthiens 5? Sinon que la première mesure que l'Église locale était obligée de prendre avec le cœur brisé, mais pour que le reste du corps local ne soit pas gangréné, c'était de se couper de cette personne. Il suffisait que cette personne n'ait plus cette protection du bouclier qu'est l'Église locale pour que la puissance des ténèbres puisse, hélas, se déchaîner comme jamais auparavant dans sa vie. Et il est des attaques, il est des pressions de la part de la puissance des ténèbres, et il est des esprits de découragement et d'angoisse qui sont là dans nos vies parce que nous avons négligé de vivre dans ce tissu, de faire bloc avec ce tissu de l'église locale. Le bouclier fonctionne mal. Ceux qui font cavalier seul dans le monde spirituel sont à la fois dangereux et en grand danger. Et je pense souvent à ce proverbe 18, verset 1er, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et voyez-vous, dans la région parisienne, je dirais qu'il est d'autant plus facile d'être non seulement un Robinson Crusoé, mais mieux encore, une sorte d'itinérant dont je ne me sens pas du tout solidaire, bien que je sois itinérant. C'est l'itinérant qui ne se fixe jamais, qui butine, qui va de ruche en ruche et de fleur en fleur, et qui ne travaille pas dans sa ruche locale. Alors disons-le ce soir, et nous devions le dire, que notre sentiment de solitude et notre découragement viennent parfois ou de notre ignorance, ou de notre négligence, ou de notre désobéissance, ou encore d'une vision faussée. À ce niveau-là, au niveau de l'Église. Et si vous êtes au Christ depuis peu, que Dieu vous donne ce soir de réaliser l'importance de vous attacher à une famille et de vous y tenir ensuite dans les bons et dans les mauvais jours. En général, on quitte une Église quand elle est bénie, c'est ça ? Est-ce qu'on quitte une église quand elle est bénie? Quand les gens se convertissent? Quand il se passe des choses fantastiques? On ne quitte pas une église. Donc, quitte une église quand ça devient difficile. Or, je ne connais pas d'église qui n'ait pas de moments difficiles. De moments où on ne voit rien. Et où pourtant tout un travail se fait en profondeur. Où le Seigneur purifie, où il émonde, où il ôte les scories, pour que l'Église soit à même d'aller plus loin dans sa conquête, mais toujours plus profondément ancrée, enracinée, pour supporter les tempêtes et éviter les déviations de toutes sortes. Oui, la vision d'Élie, je dirais à ce niveau-là, était fausse. Bien sûr, l'Église n'est pas présente dans l'Ancien Testament, mais la vision, en ce qui concernait Israël, je dirais l'Assemblée d'Israël, il est intéressant de constater que dans la version grecque de l'Ancien Testament, les Septante, c'est le terme ecclésia, Église, qui est utilisé pour l'Assemblée d'Israël. Eh bien, la vision en ce qui concernait l'Assemblée d'Israël, la vision d'Élie était fausse. Elle s'était faussée peu à peu, sans doute, comme la nôtre peut se fausser peu à peu. Essayons de l'expliquer. Élie était-il vraiment seul fidèle à l'Éternel? Élie était peut-être seul dans son style, dans sa vocation particulière. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les Écritures, peu d'hommes ont eu le type de personnalité qui était celle d'Élie, n'est-ce pas ? Jean-Baptiste. Mais il avait une carrure tout à fait particulière, un style qui lui était propre. Mais il y avait d'autres croyants. Il y avait d'autres prophètes qui était différent de lui, notamment, énumérons-les, Ce croyant qui s'appelle Abdias, 1 roi 18, versets 12 et 13, il nous est dit d'Abdias, c'est lui-même qui parle. Donc lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. Certes, Abdias n'avait pas la carrure d'Élie. Mais je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été croyant à cette époque. Et je pense qu'il fallait quand même un certain courage pour s'occuper, dirions-nous aujourd'hui, de l'Église persécutée. Hein? Pour cacher des évangéliques clandestins pourchassés par un gouvernement athée. Hein? Il faut quand même avoir du courage. Alors il y avait Abdias. Et puis il y en a un autre qui n'apparaît pas dans ce texte, mais tout simplement quelques chapitres plus loin et qui personnellement m'a toujours beaucoup impressionné par son courage. Chapitre 22, 1 roi 22, les versets 7 et 8, nous pouvons lire à partir du verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Il s'agit d'Akab, donc, au nombre d'environ 400, il leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte !» Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché. On l'avait fourré en prison. Et il a été au pain sec, à l'eau. Et il faut voir le courage de ce prophète dans toute la suite de ce récit. Et puis, il y avait un prophète en puissance que Dieu connaissait dans son cœur, c'était le prophète Élisée. Dieu l'avait choisi, Dieu avait mis sa main sur lui. Et quel successeur a-t-il été? Et puis enfin, Dieu de couronner le tout en soulignant, verset 18, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Il y en avait quand même, hein, des croyants. Et ceci m'amène simplement, et c'est important à dire, à souligner ceci de la part de Dieu ce soir. Attention à la solitude de nos exclusivismes, de nos sectarismes. Nous pouvons avoir une vision trop étroite du peuple de Dieu, là où d'autres ont une vision trop élastique du peuple de Dieu. Et il arrive que nous ayons une vision trop étroite du peuple de Dieu parce que d'autres ont une vision trop large, ou que nous ayons une vision trop large parce que d'autres ont une vision trop étroite. Vous savez que notre problème de disciple de Christ, c'est d'être toujours en réaction. Et ce n'est pas seulement notre problème de disciple de Christ, c'est aussi notre problème de français pour ceux d'entre nous qui sont français. Il nous faut toujours réagir. Seuls ceux qui sont comme nous, diront certains, appartiennent au peuple de Dieu. seuls ceux qui appartiennent à notre tendance. Et certains d'entre vous connaissent la boutade de ce croyant qui arrive au ciel, qui fait une petite visite et qui voit un paravent, avec dans cette immensité, derrière le paravent, une petite équipe, isolée, solitaire. Et il demande à l'ange qui sert de guide, mais c'est qui eux ?
Chut, ne fais pas de bruit, ils se croient tout seuls.
Moi, je bénis Dieu de ce que nous ne serons pas seuls là-haut, n'est-ce pas ? Dieu a ses élus. Dieu a ses Élysées. Dieu a ses Abdias. Qui sont, je dirais, autant d'églises. Parce que c'est vrai que certaines églises vont davantage dans la direction d'Élie. Elles ont davantage un profil, j'allais dire élyséen. C'est vrai que chaque église a des domaines où elle excelle par rapport à d'autres. Et puis on rectifie le cap. On cherche constamment dans la présence de Dieu un équilibre parce qu'on se rend compte combien on a tendance tantôt à tellement appuyer sur la sainteté que l'on en devient dur. Et puis tantôt à tellement appuyer sur l'amour qu'on en oublie que l'amour est saint. Je suis frappé par la complémentarité de l'Église de Jésus-Christ. Oh certes, j'ai des convictions en ce qui concerne l'église locale. Je ne vous les livrerai pas ce soir. Mais mes convictions personnelles ne doivent pas m'amener à mettre l'index sur tout ce qui ne correspond pas exactement à ces convictions. Et puis Abdias, je dirais que c'est celui qui avait un ministère particulièrement tourné vers les persécutés, un petit peu portes ouvertes, voyez. Là où Élie a un ministère style les héros de la sainteté de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ des groupements qui plus particulièrement nous rappellent la sainteté. Et puis Élisée, c'était le ministère de la grâce et des miracles. Une autre personnalité. Et puis il y avait Michée, le visionnaire de Dieu. Autant d'hommes, autant de personnalités différentes. Avec autant de risques de déséquilibre. Certains sont pour Apollos. Les autres pour Paul, les autres pour Céphas. Et il y a les exclusifs qui ne veulent appartenir qu'au parti de Christ. Et tout ça, ça se bataille. Vous connaissez la première épître aux Corinthiens. Attention à la solitude de nos exclusivismes et de notre sectarisme. Que Dieu nous garde, qu'il nous garde fidèles. Mais je dirais qu'il est des apparentes solitudes que Dieu ne veut pas dans nos vies. Tout comme il ne veut pas que nous recherchions le nombre pour le nombre. Nous ne devons avoir ni la religion de la solitude, ni la religion du nombre. Mais simplement, nous tenir sur le terrain des Écritures. Et avoir un amour dont l'apôtre Paul disait dans Philippiens 1, 8, 9 et 10, un amour qui sache discerner la différence entre l'essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Afin que vous discerniez ce qui est important. Ajoutons peut-être, et nous terminerons là-dessus, attention à la solitude du légalisme, de l'orgueil spirituel. On peut se croire tellement grand, tellement haut, tellement saint, et être d'une rigidité telle que notre regard passe par-dessus nos frères. Nous pourrions être comme une girafe qui aurait avalé un manche à balai. Et il est des découragements qui sont liés à ce fait. Rien n'est plus décourageant, non seulement pour les autres, mais pour la personne qui vit dedans, que le légalisme. Et peut-être manquait-il un peu à Élie, dans la situation où il vivait, le regard de la grâce. Tant il était marqué par l'état d'apostasie du peuple d'Israël. Il semble que Dieu ait voulu rectifier son regard. Lui dire, écoute, ton regard est trop noir. Regarde. Regarde ce que je vois, moi, et que tu ne vois pas. Et c'est vrai que dans les temps difficiles qui sont les nôtres, et le tableau n'est pas brillant, non seulement au niveau du monde, mais disons-le, dans nos pays, au niveau de l'Église, nous pourrions avoir tendance à avoir un regard terriblement noir, qui se refuse à voir ce que Dieu voit et qui fait plaisir à son cœur. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette remarque de cet homme de Dieu, John Stott, qui disait ceci: en termes biologiques, nous pourrions dire qu'il est nécessaire qu'existe chez les chrétiens des temps, vous savez, cet animal qui est très peu agréable, qui nous pique et nous harcèle, nous chrétiens, pour agir dans le sens du changement, et des chiens de garde qui aboient haut et fort à tout signe d'abandon des vérités bibliques. Il n'est facile de vivre ni avec des chiens de garde, ni avec des temps. Ni les uns ni les autres ne sont en bonne compagnie mutuelle. Il faut cependant que les temps ne piquent pas les chiens de garde et que les chiens de garde ne mangent pas les temps. Il faut qu'ils apprennent à coexister dans l'Église de Dieu et à remplir leur rôle en regardant d'abord le peuple de Dieu dans son ensemble, qui a le plus grand besoin du ministère des uns et des autres. Et je bénis Dieu de ce que par moment Dieu ait mis sur ma route des temps pour bousculer mon esprit conservateur quand il était mauvais. Et je bénis Dieu pour les moments où Dieu a mis sur ma route des chiens de garde, quand j'ai été tenté de succomber à toutes sortes de pressions, et de dire qu'étaient secondaires des choses absolument essentielles dans la parole de Dieu. Je bénis Dieu. Et je me rends compte que dans ma propre vie, de temps en temps, je suis chien de garde, et de temps en temps, je suis temps. De temps en temps, je suis temps, c'est beau ça. Alors que Dieu nous accorde la grâce de regarder si parfois nos découragements ne sont pas liés à notre vision déformée, faussée, déséquilibrée concernant l'Église. Il faut constamment que nous nous laissions remodeler sur le tour du potier. Nous allons arrêter ici ce soir. Nous avons examiné assez longuement toute une série de sources de découragement, de motifs de découragement à l'intérieur de ce thème de la solitude. Dieu nous accorde la grâce de nous laisser vraiment au contact de sa parole, interpellée par lui, pour peut-être simplement confesser: Seigneur, pardon, parce que je reconnais que dans tel domaine, j'ai failli ou je faillis. Ma vision est faussée. Seigneur, pardon. et avec ton ministère, avec l'œuvre de ton esprit, l'action de ton esprit dans ma vie, sur la base de ta parole, je veux modifier ma manière de vivre, ma manière de voir. Seigneur, rectifie, de manière à ce que le découragement soit chassé et que je retrouve cette joie profonde, non pas forcément exubérante, cette paix intérieure, ce sentiment de ton action et de ton approbation dans ma vie. Nous voulons prier. Seigneur, après nous avoir rappelé que nous ne sommes jamais seuls et combien tes promesses et ta parole nous a fait du bien, il t'a plu ce soir de travailler dans nos cœurs pour nous montrer quelques-unes des subtilités de l'ennemi pour nous amener au découragement. Merci parce que ton esprit va continuer sa tâche au-delà de cette réunion. Tu vas toi-même nous indiquer dans quel domaine tu nous interpelles pour que nous changions d'attitude, que nous fassions acte de volonté avec ton concours, poussé par ton esprit. Renouvelle notre vision, rectifie-la. Merci de nous avoir donné une famille, l'Église locale. Nous te bénissons pour sa richesse dans sa diversité. Oh, combien nous te louons, Seigneur. Tu nous as donné une maison, une ville habitable. Donne-nous d'avoir soif de nous y bien conduire et d'être source d'encouragement les uns pour les autres. Merci pour les temps et les chiens de garde. Merci parce que tu nous rectifies les uns par les autres. Travaille en nous pour que nous acceptions d'être rectifiés, remis sur la bonne voie, et pour que nous résistions à l'appel des sirènes qui voudraient nous emmener soit vers l'isolement, soit vers l'amalgame. Seigneur, merci, merci pour la joie de cette soirée, pour le privilège d'avoir pu te rencontrer. Et maintenant, tu nous prépares à vivre cette journée de demain dans nos églises respectives, pour te louer, t'adorer, te magnifier et pour t'écouter encore, afin que tu sois glorifié dans ton Église, jusqu'à ce que tu reviennes la chercher, pour être éternellement avec toi.